Cet après-midi, je voudrais partager quelque chose avec nous. Et nous allons parler cet après-midi sur le thème de la délivrance de la méchanceté domestique. Alléluia. La délivrance de la méchanceté domestique. Alléluia. Alors, quand on parle de la méchanceté domestique, on parle de la méchanceté familiale. Alléluia. On parle de la méchanceté qui est liée aux personnes les plus proches de ta vie. Alléluia. Les plus proches de ta vie. On parle de la méchanceté des personnes les plus intimes à ta vie. Alléluia. Et donc, quand nous parlons de la délivrance, nous parlons également de comment faire pour sortir de là, comment identifier cela. Comment identifier? Tu ne peux pas mettre hors d'état de nuire quelque chose que tu n'as pas identifié, un problème que tu n'as pas identifié. Alléluia. Et la plupart des batailles des hommes est liée à la méchanceté domestique, familiale. Alléluia. Familiale. Et je voudrais qu'on lise un texte dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10. Alléluia. Est-ce qu'on peut arrêter ce ventilateur? Je ne sais pas pourquoi on l'a mis. Matthieu chapitre 10, on va prendre à partir du verset 34, non, le verset 35 au verset 36. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 35 au verset 36. Et on va lire également un autre texte dans le livre de Deux Rois, Deux Rois chapitre 11, le verset 1 à 3. Deux Rois chapitre 11, le verset 1 à 3. Alors, je vais lire au nom de Jésus, à partir du verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Deux Rois chapitre 11, le verset 1 à 3. Il est écrit, Athalie, mère d'Akasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akasia, prit Joas, fils d'Akasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et il ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la méchanceté domestique. Et vous savez, l'un des endroits où les hommes sont le plus vulnérables, c'est lorsqu'il s'agit de leur famille. C'est lorsqu'il s'agit des personnes les plus proches à leur vie. Alléluia. Vous savez, combattre la méchanceté familial ou domestique, c'est un peu comme se combattre soi-même. Alléluia. C'est un peu comme se combattre soi-même. Et c'est là toute la délicatesse de ce sujet. Alléluia. C'est là toute la délicatesse de ce sujet. Comment faire pour ne pas identifier ton frère comme ton ennemi? Comment faire pour ne pas identifier ta sœur comme ton ennemi? Comment faire pour ne pas identifier ta mère comme ton ennemi? Comment faire pour ne pas identifier ton père comme ton ennemi? C'est très complexe. Alléluia. C'est très complexe. C'est facile pour nous d'identifier les gens qui sont loin de nous comme nos adversaires. C'est facile pour nous de les identifier comme les sources de nos problèmes. Mais c'est parfois compliqué de croire que la personne qui est le plus proche de toi soit la source de tes problèmes. Alléluia. Alors, l'histoire que nous voyons dans le livre de Deux Rois, chapitre 11, le verset 1 à 3, ce texte nous raconte l'histoire d'une femme appelée Athalie. Athalie était la mère d'Akazia. Elle était la mère d'un roi. Akazia était le roi d'Israël. Alléluia. Akazia était le roi qui régnait. Mais il se trouve que Akazia va mourir prématurément. Prématurément, il va s'en aller. Et lorsque Athalie va se rendre compte que son fils était mort, elle va donc décider d'être le prochain roi ou reine. Alléluia. Et alors qu'aucune femme n'avait jamais été roi en Israël à cette époque. Et donc, afin de réaliser sa quête du trône, son rêve, bien-aimé, elle va commencer par tuer tous ses petits-fils, les enfants d'Akazia. Alléluia. Voici une grande mère qui tue ses petits-enfants pour pouvoir régner sur l'héritage de son fils. Est-ce qu'on est ensemble? Et elle va les tuer un par un. Mais un seul va survivre. Et le seul qui va survivre va s'appeler Joas. Il va être sauvé par sa tante qui va le mettre à l'abri dans la maison de l'Éternel. Et son petit-fils va vivre donc chez le sacrificateur Joajada pendant 6 ans. Il va être là-bas jusqu'au moment favorable à partir de 2 Rois chapitre 11 jusqu'au chapitre 11, le verset 12 au verset 17. Vous pouvez voir comment le sacrificateur Joajada va l'introniser roi. Alléluia. Lorsqu'il va devenir mature. Alléluia. C'est une histoire horrible. C'est une histoire triste. Comment une grand-mère peut tuer ses petits-enfants pour pouvoir être reine? On serait tenté de se poser la question, qui a tué même son fils, puisqu'il est mort prématurément? Alléluia. On serait même tenté de croire que c'est elle qui l'a supprimé prématurément pour pouvoir être reine. Ah oui, il y a des histoires horribles dans l'Écriture. Des histoires que tu crois que ça n'arrive qu'à toi. C'est arrivé aux gens avant toi dans les Écritures. Alléluia. Ne crois pas que ton histoire est seule. Non, il y a la copie conforme dans les Écritures. Amen. Bien-aimé, la méchanceté domestique est la méchanceté la plus dangereuse contre la destinée d'un homme. C'est la méchanceté la plus subtile. C'est la méchanceté la plus, comment je vais appeler ça? La plus meurtrière. C'est la méchanceté la plus ingénieuse. Parce que tu ne te rends pas compte à quel moment ta vie est en danger. Alléluia. Je me rappelle du témoignage d'un jeune garçon, l'histoire d'un jeune homme qui avait passé l'examen de la licence pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il avait fait le même examen et il n'avait rien eu. Il avait toujours une mauvaise note. Alors qu'il enseignait les autres avaient de bonnes notes, mais lui, à chaque année, il avait toujours la note qui ne lui permettait pas de valider ou aller à la classe supérieure. Alléluia. Et la 7e année, il n'a pas passé l'examen. Mais il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à se dire, peut-être mon problème est spirituel. Il a commencé à chercher Dieu, à prier. Et c'est pendant qu'il a prié, bien-aimé, qu'il a eu un rêve où certaines femmes de son père l'attaquaient. À chaque fois qu'il était sur le point de composer son examen, il avait toujours ce même rêve qui revenait. Les femmes de son père l'attaquaient. Et le bastonnait dans le rêve. Et son père était polygame et son père avait 5 femmes. Alléluia. Et il s'est donc rendu dans son village. Il a pris un couteau qu'il a oint. Et il a prié avec toute la nuit. Alléluia. Il a pris un couteau qu'il a oint. Alléluia.
Et tout en priant, il a commencé à déclarer tous les sorciers et toutes les sorcières qui ne veulent pas que j'aille de l'avant doivent mourir. Et de manière démonstrative, il a commencé à balayer le couteau dans la maison, dans le vide. Alléluia. Lorsqu'il a fini de prier, il s'est endormi. Le matin, alors qu'il s'apprêtait à sortir, il est allé donc saluer la première belle-mère. Alléluia. En s'approchant de la fenêtre, il l'entendit discuter avec sa seconde belle-mère. Et la seconde demanda à la première si elle était dans le clan de la nuit, si elle était dans le clan de la nuit précédente. Alléluia. Elle a répondu que non. Elle lui a dit, ma sœur, tu as la chance. Tu as eu la chance. C'est qu'on a vécu la nuit. Alléluia. Tu as la chance. Parce que notre fils là est venu avec un couteau bizarre. Alléluia. Si le couteau te touchait, tu mourrais. Et elle a dit que dès que le garçon lui a lancé le couteau, elle s'est envolée. Et alors qu'elle discutait encore, bien-aimé, le garçon est allé les voir et les a interrogés sur la raison de ses échecs. Et il a promis de les tuer physiquement avec le couteau s'il échouait à son prochain examen. Et l'année qui a suivi, il a eu son examen avec une mention. Bien-aimé, nous vivons dans un monde où la méchanceté est à l'ordre du jour. Alléluia. Où la méchanceté est à l'ordre du jour. Oh, on a vu des gens qui étaient censés être grands, être tués avant leur temps par des puissances maléfiques dans la maison de leur père. Certaines personnes destinées à être au sommet sont devenues des fous dans la rue à cause de la méchanceté de leur famille. Comment un homme peut-il être aussi méchant avec sa mère? L'a trompée pour qu'elle vienne habiter chez lui afin de prendre soin d'elle, puis l'a tuée, caché son cadavre dans son armoire avec une calebasse dans la main. Mais c'est l'histoire d'un homme comme ça qui a fait tout pour ramener sa mère chez lui et dit, maman, je vais prendre soin de toi. Dieu m'a béni. Et la maman ne savait pas que c'était pour faire l'argent rituel. Et lorsqu'elle est arrivée, il l'a tué. Il l'a gardé dans l'armoire. Et pendant 2 ans, il ouvrait l'armoire et cette femme vomissait de l'argent pour lui. Alléluia. La méchanceté familiale n'a pas de limite. Elle va d'un mari à sa femme, d'un oncle à une tante envieuse qui n'est pas contente que vous progressiez et qui cherche donc à vous arrêter. Voyez, bien-aimé, la Bible nous dit ici que, verset 35, car je suis venu entre mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Oui, bien-aimé, il y a une guerre entre l'homme et son père. Il y a une guerre entre la fille et sa mère. Il y a une guerre entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre le beau-fils et son beau-père. Il y a une guerre. Et Jésus dit ici, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oh, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et l'homme, quand il met homme, c'est-à-dire quiconque, tout le monde est inclus dans cette histoire-là. Tout le monde. Vous voyez? Les raisons pour lesquelles les ennemis de la famille attaquent les gens sont multiformes. Je vais vous citer quelques raisons. La première raison pour laquelle l'ennemi familial attaque nos vies, bien-aimés, c'est l'envie. Et la jalousie. L'envie et la jalousie. On a tendance à dire souvent que la jalousie provient de l'incapacité. Bien aimé, quand quelqu'un est incapable d'avoir ce que tu as, il te jalouse, il t'envie. Amen. Regardez dans l'histoire de Caïn. et Abel. Regardez comment Caïn a tué Abel.
Par envie et par jalousie. Oui, bien-aimé. Il y a l'histoire d'une femme qui avait des relations sexuelles avec son père. Et lorsqu'on les a arrêtés et qu'on l'a interrogé, pourquoi tu avais des rapports sexuels avec ton père? Cette fille a dit simplement, elle a avoué une seule chose qui a choqué tout le monde. Elle a dit, parce que j'enviais ma mère. Alléluia. Parce que j'enviais ma mère. Moi aussi, je voulais ce que ma mère avait.
Ah. Alléluia. La deuxième raison, bien-aimé, pour laquelle les ennemis des familles attaquent les hommes, les êtres humains, nous attaquent, toi et moi, bien-aimé, la cupidité. La cupidité. La cupidité, c'est-à-dire l'avidité pour de l'argent, l'avidité pour la puissance, l'avidité pour la position. La personne veut être la seule qui est la seule qui est de l'argent dans la famille, qui a une position de puissance, qui a une position d'autorité, qui soit le plus instruit dans la famille. Et chaque fois que quelqu'un essaie de s'en approcher, il te met KO. Alléluia. Alléluia. Comme nous le voyons dans l'histoire d'Athalie. Alléluia. Qui a tué tous ses petits-fils à cause de la position. Parce qu'elle voulait aussi qu'on l'appelle reine. Elle ne voulait pas qu'on l'appelle la mère du roi. Elle voulait être reine. Bien-aimée. Est-ce que vous pouvez réaliser combien était mauvaise le cœur de cette femme? Si ton fils réussit, tu as réussi, non? Si ta fille réussit, tu as réussi, non? Mais si une femme tue tous ses petits-fils pour régner à la place de son fils, bien-aimé, c'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Vous voyez? Athalie a tué ses petits-fils à cause de sa position. Et certaines personnes sont prêtes à tout pour la position dans la famille. Pour le nom dans la famille. C'est moi le père. Personne ne doit être le père dans la famille. Oui, quiconque veut se lever dit, non, toi, tu ne dois pas être le père. C'est à moi, alors que ce n'est pas lui. Parce qu'il veut la position. Ils veulent, quand ils passent au village, on les célèbre. Comme Aman. Aman! Qui était déjà élevé. Son problème était quoi avec un homme qui était assis à la porte? Il avait quel problème? Qu'est-ce que ça changeait sur sa position? Qu'est-ce que ça influençait sur sa position? Rien. Mais il dit, quand je suis passé, tu ne t'es pas prosterné. Pourquoi? Une seule personne. Il a signé sur une seule personne. Alors que des milliers s'étaient prosternés devant lui. Dis-toi. D'ailleurs, mais ne veux pas te traiter seul. Ta femme, quel est le nom de ta tribu? Quel est le nom de ta race? Je vais, à cause de toi, je vais exterminer tout le monde. Parce que vous n'avez pas respecté ma position. Je suis le premier ministre. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés qui se sentiront offensés si vous ne les appelez pas avec leur éloge. Il y a des pasteurs qui se sentent offensés. Quand tu dis pasteur, ils disent non, je ne suis pas pasteur. Je suis bishop. Alléluia. Je suis prophète. Dis prophète. Là, il se sent à l'aise. Je suis apôtre. Il se sent à l'aise. Amen. Et quand tu dis pasteur, bonjour. Il ne te reçoit même pas. Il ne te reçoit même pas. Non, il ne te reçoit pas. Bien aimé. Pasteur, c'est un thème générique pour tous ceux qui servent Dieu. Amen. Pasteur, ça veut dire berger. Tu es un berger. Quelle que soit la spécificité de ton appel, tu es d'abord un berger. Tu es d'abord un berger. Tu as la charge de conduire un troupeau. Non, il ne te reçoit même pas. Et il mentionne à son protocole, celui-là, c'est comment on appelle quelqu'un qui manque de respect.
C'est un vilain garçon. Celui-là, il me manque de respect. Comment il peut? Moi, le prophète de Dieu, tu m'appelles pasteur, tu diminues mon grade. Tu diminues mon notion. Alléluia. Et beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent offensés dans nos réunions de village, de famille, parce que tu leur as dit X ou Y chose. Ils disent, comment tu peux te placer à mon niveau? C'est ce que je suis en train de parler. La cupidité. La cupidité de la position. La cupidité de la puissance. Je suis le seul dans la famille. C'est moi qui vous donne la respiration. C'est moi qui vous donne le souffle. C'est moi qui vous donne. Sans moi, on ne peut rien bâtir dans cette maison. Alléluia. Il y a des gens comme ça. C'est eux qui doivent initier. S'ils n'initient pas, on ne fait pas. Amen. Troisièmement, bien-aimé, la raison pour laquelle l'ennemi domestique attaque nos vies, la vengeance. La vengeance. Oui, ils sont motivés par la vengeance. Comme le monde de Samuel chapitre 13, le verset 23, le verset 22 à 30. Le verset 22 à 30, bien-aimé. Il est question là-bas de l'histoire du premier fils de David, qui va pécher contre David et les frères de David en déshonorant Tamar, sa sœur consanguine, en ayant des relations iniques avec elle. Alléluia. Mais ses frères ne vont pas accepter le traité de paix que David va signer. David va dire, bon, ce sont mes enfants, ok, tu as fait Aman honorable, on oublie. Ses frères vont dire que jamais. On va trouver tous les moyens de rembourser l'histoire-ci. Amen. Et la Bible dit qu'ils vont tout faire jusqu'à ce qu'ils vont tuer. Non. Ah, non. Et c'est Absalom, qui était le frère de Tamar, qui va tout faire par vengeance. Oui, mes bien-aimés. Il y a des gens dans nos familles par vengeance. Ils vont t'attaquer. Tu hériteras même des batailles de ta mère sans t'en rendre compte. Des batailles de ton père sans t'en rendre compte. Les enfants de tes frères vont devenir tes ennemis. Vous avez bien grandi, mais quand vous arrivez à un certain âge, on leur dit, n'oubliez pas ce que ma sœur m'a fait. Quand tu restes, ma soeur, vous voyez, il y a des mamans comme ça, elles s'asseignent, elles méditent toutes les choses que ses frères lui ont fait et ça grandit dans le cœur des enfants. Ils grandissent en sachant que un jour tu t'assois quelque part avec ton, tu crois que c'est ta fille, elle dit, ah, je ne suis pas ton enfant, hein. Tu avais d'abord fait du mal à ma mère. Tu tombes des nues. Et tu dis, mais ta mère, c'était ma soeur. Ma sœur n'avait qu'à me dire ce que j'avais, qu'elle avait contre moi. Amen. On a vu des situations comme ça, où des enfants ont conduit les batailles des parents. Je me souviens, quand ma défunte maman mettait au monde les derniers jumeaux, et que lorsqu'elle est allée accoucher, elle s'est fait accompagner par sa co-épouse. La femme au petit frère, mon père. Et on n'était pas là. Il se trouve qu'il y a une histoire étrange. Et dans cette histoire, il se pourrait que ma mère, à une certaine heure, s'est levée, a ouvert les yeux de son lit et a trouvé sa co-épouse sous son lit. Amen. Et il se trouve qu'à partir de ce moment, elle était dans l'impossibilité de se relever de son lit, son règne était touchée. Elle a fait plus d'un mois sous le lit, à garder le lit. Et du coup, ma mère a dit, tu m'as fait quelque chose. Alléluia.
Tu m'as fait quelque chose. Et cette histoire a couru. Madame là, elle n'a jamais accepté. Elle aussi, elle est allée s'asseoir avec ses enfants. Elle a dit, ma co-épouse m'a traité de sorcière. J'ai tué, je l'ai cassé le rein, j'ai ceci, j'ai cela. Heureusement pour nous, on avait une mère assez équilibrée dans sa tête. Elle savait que mes batailles, ce n'est pas vos batailles, les gars. Je geste. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis et je m'arrête là. Et ma mère dit, elle s'est arrêtée là. Elle a vécu sa vie. Et elle est morte. Un jour, mon père, voyant que mes cousins s'éloignaient un peu de nous, mon père a dit, non, il faut que je vous réunisse, on parle. Et mon père allait donc voir la femme de son petit frère, dit, mais c'est comment? Il faut qu'on s'asseye, on discute. Elle lui a dit, non, il faut que toi et tes enfants, vous vous excusez de ce que ta femme a dit. Et moi, mon père est venu me dire, il m'a dit, il faut qu'on trouve le moyen de se réconcilier avec lui. J'ai dit, papa, moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas vécu le film. Je n'ai jamais dit quelque chose à l'intérieur. Ni moi, ni mes frères. Amen. Alors, si elle a quelque chose à dire, allez réveiller le mort, vous discutez avec le mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as quelque chose à dire, allez réveiller la défunte et vous vous expliquez. Nous, on n'est pas dedans. Et mon père est ressenti, il n'avait plus de mots. Il a dit, maître, c'est même vrai. Alléluia. Et donc, vous voyez que et sa fille qui était comme une petite soeur à moi, bien-aimée, elle a grandi avec cette haine. Cette haine. Au point où lorsqu'elle allait se marier, elle a tout fait pour que mon père n'intervienne pas dedans. Alors que mon père est le chef de famille. C'est chez nous qu'on devait venir la doter. Elle a fait tout pour qu'on ne la dote pas. Parce qu'elle disait, il ne faut pas que cet homme et ses enfants touchent quelque chose. Il a dit, tu es folle. Et elle est morte comme une chèvre dans son foyer. Alléluia. Elle est morte inutilement. Et mon père s'est levé, il faut qu'on aille l'enterrer. Dis-toi, sois là-bas. Tu pars où? Tu pars dans une maison qu'on ne t'a pas invité. Tu sais que tu pars où? Respecte ton rang. Tu es le chef. Tu es le père. Le père ne se déplace pas dans un endroit où on ne l'a pas invité. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tu n'as jamais mangé? Mon père s'est assis là, dit, ah, il sort des problèmes. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des situations comme ça où des personnes avant de mourir donnent leur mandat à la prochaine génération. Il faut continuer ma bataille jusqu'à. Allez au village, allez dans nos villages, vous allez voir ça. De génération en génération, les gens se bataillent pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. La cupidité. C'était l'espace de ma mère. C'était l'espace de mon père. C'était l'espace de ma mère. Allez dans mon village bien-aimé. Tout le monde est mort. On nous supplie de venir prendre la terre. Chaque jour, mes oncles m'appellent. Chaque après une semaine, on me convoque. On dit, tu viens quand prendre ta part de terre. Je dis, vous avez fini la bagarre dessus. Il dit, tout le monde est mort. Venez récupérer, vous repeupler l'endroit. Ils se sont bataillés, ils sont tous morts avec. Nous, notre génération, n'est pas intéressé par ça. Chacun va chercher sa part. Et le village est vide. Vous voyez, mes bien-aimés. La cupidité et l'ennemi passent par là pour détruire des familles et des générations. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Les ennemis domestiques sont des gens qui sont proches de nous, qui nous aident pas beaucoup et qui font en sorte que nous ayons une confiance absolue en eux et que vous ne les soupçonniez jamais. Ils créent votre date de naissance, vos forces, vos faiblesses, vos habitudes quotidiennes.
parce qu'ils font le plus part de temps avec vous. Ils passent le plus grand de leur temps avec vous. Et ils opèrent toujours avec un masque lorsqu'ils veulent vous attaquer afin que vous ne puissiez pas les détecter. Alléluia. Eh bien, nous parlons des ennemis les plus subtils, pas évidents à détecter. Comment peux-tu soupçonner ta sœur avec laquelle tu as grandi pendant 40 ans? Vous avez partagé tellement de choses. À quel moment tu peux imaginer que son cœur devient méchant à ton endroit? Je n'ai pas dit ta cousine, j'ai dit ta sœur. Je n'ai pas dit ton grand frère, ta sœur jumelle. Si Caïn et Abel, si Caïn a tué Abel, c'était les jumeaux, hein? Si Caïn a tué Abel, frère, l'ennemi est compliqué. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Michée chapitre 7, le verset 6. Michée 7, le verset 6. C'est le premier qui parle même de ça, Michée. Michée dit cela. Il dit, car le fils outrage le père. La fille s'élève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mm-hmm. Bien-aimé. Pourquoi ce type d'ennemi est dangereux? Parce qu'il connaît la direction de ton cœur. Pourquoi ce type d'ennemi est dangereux? Parce qu'il connaît tes faiblesses. Pourquoi ce type d'ennemi est dangereux? Parce qu'il connaît tes secrets. Pourquoi cet ennemi est dangereux? Parce qu'il connaît là où tu dors. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé. La Bible nous parle de l'histoire d'une bataille dans le livre de Juges. Allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 4. La Bible parle de cette bataille qu'il y a eu contre Sisera. Amen. Et c'est une bataille que Barak a menée. Amen. Le général de Dieu. Barak a mené cette bataille. Et Barak a été instruit par Déborah. Alléluia. Déborah lui a dit, écoute, tu vas gagner cette bataille. Va, Dieu est avec toi. Et Barak dit que non, si Dieu est avec moi, viens, accompagne-moi. Et Déborah va lui dire que si je t'accompagne, c'est une femme qui aura la victoire. Il dit, il n'y a pas de problème. Et la Bible dit qu'il va donc partir, il va donc se lever contre Jabin, le roi d'Azor. Alléluia. Et Jabin va donc envoyer son général qui s'appelait Sisera. Amen. Sisera était un manipulateur satanique. C'était un sorcier. La Bible dit qu'il va combattre avec les étoiles du ciel. Alléluia. La Bible dit que l'armée de Dieu va s'élever contre Sisera. Hey, ça dit que Sisera n'était pas n'importe qui. Il connaissait la bataille spirituelle. Et au plus profond de la bataille, la Bible dit qu'il va voir, quand il va se rendre compte que la bataille n'est plus à son avantage, il va décider de fuir. Et il va donc aller se cacher dans la maison d'une femme qu'on appelait Jaël. Alléluia. Jaël va lui donner le refuge. Et il va dire, écoute, je suis très fatigué. Cache-moi dans ta couverture. Et Jaël va dire, ok, couche-toi là. Couche-toi et dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. Quand j'ai soif, elle va lui donner de l'eau à boire. Et elle va le couvrir. Et il va dire, écoute, tiens-toi, fais un peu la sentinelle. Si quelqu'un vient, avertis-moi. Elle dit, d'accord. Et la Bible dit que Jaël va se saisir d'un pieu. Et elle va attendre au moment où Sisera va être profondément endormi. Et elle va l'enfoncer dans la tête. Oui, voilà l'ennemi domestique. Oui, voilà l'ennemi familial.
Au moment où tu es en confiance, au moment où tu n'as pas l'ombre de te douter d'un quelconque danger, c'est alors qu'on t'assomme à la tête. Jaël, il y a des Jaël dans nos familles. Il y a des Jaël dans nos amitiés qui n'attendent que le moment où tu seras fait, tu seras épuisé pour t'assommer. Alléluia.
David a eu le même problème. La Bible dit qu'un jour, David était fatigué. Et un des frères de Goliath, qui était spécialiste, il était spécial parce qu'il avait une lance spéciale. Amen. La Bible dit que alors que David était faible, il va essayer de le tuer. Mais heureusement pour David, il y avait des hommes qui veillaient pour lui. Alléluia.
Bien-aimé, quand personne ne veille pour toi, l'ennemi domestique te tue.
Je prie pour quelqu'un ce soir.
Quiconque est caché dont tu n'as pas l'identité, je prie qu'il soit expulsé au nom de Jésus. Quiconque est caché et cherche à déstabiliser, détruire, manipuler ta vie, manipuler ta famille, oui, qui est proche de toi alors qu'il est ton ennemi, je commande qu'il soit expulsé. 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 Ennemi de ton travail, ennemi de tes affaires, ennemi de ta santé, ennemi de ton foyer, ennemi de ta stabilité, ennemi de ta paix, ennemi de ta joie, sois exposé, sois exposé, sois exposé, sois exposé, au nom de Jésus, dis avec moi, sois exposé.
Assois-toi bien-aimé. Est-ce que je peux continuer? Mes bien-aimés, ils ont plusieurs buts. L'ennemi domestique a plusieurs buts. Le premier but, c'est mettre fin à ta vie. Nous voyons le cas de Jaël, de Sisera et de Jaël. Mettre fin à ta vie. Si tu meurs, tout va bien pour eux. Tant que tu vis, tu es en problème. Alors que tu n'as rien. Alors que tu ne possèdes rien. Bien-aimé, le simple fait que tu vis, tu possèdes quelque chose. La chose que tu possèdes est plus précieuse que tout, c'est la vie. Si on te prend la vie. Amen.
Le deuxième but des adversaires, des ennemis, des familles, bien-aimés, c'est qu'ils veulent tronquer la destinée des gens. Tronquer leur destinée. Tronquer leur destinée. C'est-à-dire changer l'identité, changer la destinée.
Rappelez-vous de ces deux femmes qui avaient mis au monde deux enfants le même jour. La Bible dit que la nuit, l'une s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Alléluia. Quel est ce sommeil qui tue?
Alors elle s'est rendue compte que l'enfant ne vivait plus. La Bible dit qu'elle va se lever, aller vers sa sœur, prendre son enfant et changer, mettre le sien qui était mort dans son sein. Quel est ce sommeil qui ne t'allaite pas pendant qu'on change ta destinée?
Tu dois que qualité de sommeil, on peut changer, tu es pas au courant. On te porte, ma mère disait, tu regardes la télé, on peut porter tout dans la maison, tu es pas au courant. Il y a des gens comme ça.
Tronqués de destinée. Si Salomon n'était pas habité par l'Esprit de Dieu, il n'aurait jamais su. Parce que c'était d'une perfection. Un crime qui n'avait pas de traces. Même les plus grands inspecteurs ne pouvaient pas comprendre cette histoire-là.
La Bible dit, Salomon s'est arrêté. L'Esprit de Dieu l'a saisi. A dit que, frère, voici le vrai, voici le faux. Teste maintenant. Il dit, ok, comme vous deux vous discutez l'enfant, ce qu'on va faire, on va diviser l'enfant vivant en deux. En réalité, l'enfant vivant, si on le découpe en deux, il est à mort. Et la vraie mère dit non, papa. Je préfère l'enfant mort et n'est pas vivant et n'est pas m'appartenir. Il y a des gens comme ça. Ils ont vu leur destinée être changée et les autres la vivent et ils sont morts. Morts, bien-aimés. Quand tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé, tu es mort. Troisièmement, troisième but, bien-aimé, des ennemis, des familles. Non, on a parlé des raisons, maintenant on parle des buts. Amen. On a parlé des raisons, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on est dans les buts. On est au troisième but. Le troisième but, bien-aimé. Pourquoi ils font ça? C'est pour rendre les victimes inutiles. Inutiles, bien-aimés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un devient dépendant des drogues et de l'alcool? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon, une jeune fille n'ait plus envie d'aller à l'école, mais préfère paresser et attendre que l'argent lui tombe dessus? Lorsqu'il atteint l'âge de 40 ou 50 ans, il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Pas de travail, pas de certificat. Et pourtant, il veut un emploi qui lui rapportera 500 000 ou 1 million. Ces puissances peuvent également rendre inutile la vie d'une femme en la rendant légère. Amen. Légère. Elle peut avoir trois enfants avec trois hommes différents. Regardez l'histoire de cet homme, Marc chapitre 5. Nous avons l'histoire de cet homme de Gadara. Alléluia. Que les puissances sataniques l'avaient rendu inutile alors qu'il était un général, qu'il avait le contrôle des 10 villes. Un général de Dieu. La Bible dit que quand il va délivrer de ses démons, il va aller prêcher l'évangile à 10 villes. 10 villes! Mais il était prisonnier. Regardez la femme samaritaine. Elle avait été attaquée par les ennemis de famille. Elle était au même endroit. Et Jésus lui pose la question, combien de maris as-tu? C'était un problème de famille, frère. Jésus était venu régler un problème de famille qui avait enterré beaucoup de sages et d'intelligents. Elle va lui dire, j'ai 4. Il dit, oui, même celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Il dit, c'est vrai. C'est vrai. Jésus n'a pas chassé un démon, mais il lui a dit la vérité. Et la Bible dit que ce jour-là, cette femme est allée en Samarie. Elle a prêché l'évangile à toute la Samarie. C'est-à-dire que c'était elle qui avait les clés du salut de la Samarie. Mais elle était bloquée à cause d'un problème de mariage. Il y a des gens comme ça qu'on a rendu inutiles. Et du coup, ils se sentent inutiles dans ce que Dieu veut faire avec eux. Je prie pour toi. Quelle que soit l'identité d'inutilité que Dieu a déposée en toi, je ne te sais pas, 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 je ne te sais pas. Tu ne seras pas inutile pour toi-même, tu ne seras pas inutile pour ta famille, tu ne seras pas inutile pour ta génération, tu ne seras pas inutile pour ta saison, au nom de Jésus. Quatrième but. Alléluia. Quatrième but. Le but pour lequel ils attaquent, bien-aimés, c'est pour infliger des maladies étranges à leurs victimes. Amen. Des maladies étranges, parmi lesquelles la folie. Amen. Des maladies étranges, en particulier les personnes qui vivent dans les foyers polygamiques, ça leur est évident, ça leur est facile de vous mettre dans toutes sortes de situations bizarres. Alléluia. Quand tu épouses une seule femme, tu es concentré sur une seule lignée. Mais quand tu épouses 3, 4, 5 femmes, tu es concentré sur autant de femmes que de lignées. Alléluia. Alors, si toi, tu sors d'une lignée, tu te maries, remarquez, ton mari doit visiter toutes les maisons là. C'est pas ça, Martial. Tu vas aller voir les co-épouses de ta belle-mère. C'est à elle que tu as donné plus de cadeaux qu'à ta belle-mère. C'est ça. Et les paroles comptent. Vous avez vu la belle-mère en cheveux jaunes ici danser, la co-épouse. Vous avez vu la co-épouse ici danser, demander le micro. Quand quelqu'un porte les cheveux jaunes, il faut comprendre la qualité des personnes que ça est. Alléluia. Tu comprends que ça, c'est le problème. Alléluia. Ça, c'est problème. Mamie, problème. Ah. Quelqu'un pond les cheveux jaunes. Toi, tu es là. C'est le feu, hein? Alléluia. La personne est venue en guerre. Toi, tu es en paix. Jesus. On peut avancer. Donc, quand... Vous avez écouté, elle a dit plein de choses. Mais il dit à mon fils Martial que reste de ton côté, frère. Tu veux que ta maison vit longtemps, évite le genre de femme là dans tes histoires. Alléluia. Mets-toi à carreau. Rencontre-la quand tu vas au village pour les différents deuils et responsabilités de couple. Amen. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Cheveux jaunes, ça va marquer. Non, vous tous, ça vous a marqué, non? Hein? Une maman, cheveux jaunes. Hein? Ton attitude t'a marqué. Oui. Cheveux jaunes. C'est compliqué à gérer. Ça vient comme le volcan. Alléluia. Quelqu'un met les cheveux jaunes ici, je le délivre d'abord. Passe d'abord à délivrance. Je suis suspect. Amen. Donc, ils ont donc pour but d'infliger des maladies étranges. Des maladies étranges dans les corps des personnes pour les détruire. C'est comme ça que vous allez voir des personnes avec des maladies cardiovasculaires, du cancer, des diabètes, des choses qui n'ont pas une certaine traçabilité familiale. Amen. C'est-à-dire que quand on remonte en arrière, les gens ont vécu normalement. Hein? Après, on t'explique, non, c'est la mauvaise alimentation. Frère, on a déposé. Ma tante, elle est décédée, la soeur jumelle à ma mère, elle est décédée du cancer. Mais avant de mourir du cancer, un jour, on a prié, j'ai prié avec elle, et elle nous a raconté quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, mon cancer, je crois qu'il n'est pas normal. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, un mois avant que je ne sois en métastase. C'est-à-dire, elle n'a pas fait un an ou deux ans de cancer. Non! Elle a fait un songe. Quelqu'un est venu ouvrir ses jambes et déposer quelque chose dedans. Elle a commencé à sentir mal dans ses parties intimes. Elle est allée voir un gynécologue. Le gynécologue a dit que va faire une biopsie. On a fait une biopsie, on dit on ne faisait que Elle a fait comme ça. Une semaine d'examen, à la fin, on a conclu tumeur cancéreuse. Le temps qu'elle se tourne comme ça pour dire, bon, on passe comment? Elle avait fait deux mois. On fait comment? Elle repart. On dit, non, chimiothérapie, elle va chez le cancérologue. Le cancérologue dit que, mais vous êtes en métastase. Comment vous pouvez venir à la fin de la vie? Vous ne savez pas qu'on peut vivre avec progressivement. Elle dit, docteur, ça ne fait que 2 mois. Il n'a pas cru. Bien-aimé. Il y a des maladies qui sont provoquées par la mauvaise alimentation. Ça, on est tous d'accord. Amen. Par la mauvaise hygiène de vie. On est tous d'accord. Amen. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec l'hygiène de vie. Que ton ennemi a dit, toi, je vais te stopper. Je vais te mettre KO. Et je vais donc t'injecter ça. Plusieurs ont eu des songes où on les a injectés. Alléluia. J'ai prié pour une dame, mes bien-aimés. Elle a fait un songe. On est venu lui faire une piqûre d'injection dans un songe. Elle s'est levée. Elle a eu très mal. Elle s'est levée. Elle a pris ça pour un songe. Une, deux, trois semaines, elle se sentait pas bien. Elle était mariée. Amen. Et quelques temps plus tard, elle va à l'hôpital. Le médecin fait des examens, prend un peu de son sang, regarde. On dit, mais vous avez le VIH. Elle est tombée des nues. Une maman mariée avec son mari. On dit, mais ton mari, c'est ton seul. Elle dit, c'est le seul. C'est mon mari depuis une vingtaine, trentaine d'années. On dit, faites-le venir. Le monsieur vient, on prend son sang, on regarde. Il est clean. On dit, madame, peut-être vous avez touché les éléments souillés ou ça. Elle dit, je n'en sais rien. J'ai pris cette femme. On a commencé un programme de délivrance. J'ai prié avec cette femme. Le premier jour que j'ai prié, ah mon Dieu, c'était compliqué. Le responsable est mort un mois après. Elle est repartie faire les examens. Elle est aujourd'hui séro-négative. Alléluia! Parce que j'ai enlevé l'injection. Moi-même, j'ai injecté. Alléluia! Oui! Si nous ne faisons pas attention, nous allons accepter certaines maladies. Et quand nous acceptons cela, ça devient fait. C'est établi autant spirituellement que physiquement. Et ça devient compliqué pour pouvoir s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous parler de quelques méthodes, quelques-unes des méthodes que les ennemis des familles utilisent. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelques-unes des méthodes. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, bien-aimés. Il y a plusieurs méthodes. Mais je vais vous donner quelques méthodes. Ça va nous aider. La première méthode que je vais vous partager, c'est la coupe de vos cheveux. Amen. La coupe de vos cheveux, c'est-à-dire que quoi? Ces personnes-là coupent vos cheveux pour en avoir une mèche en leur possession. Alors, ils sont connus sous le nom, on les appelle des barbiers spirituels. Des gens se lèvent la nuit, une partie de leurs cheveux a disparu. Il y a une marque, on a sauté une partie comme ça, ils ne comprennent rien. Alléluia, ils ne comprennent rien. Parfois, on est venu arracher ça au niveau de leurs aisselles. Parfois, on a arraché cela au niveau de leur pubis. Alléluia. Et ils ont seulement remarqué que cette place-là, c'est comme s'il n'y a pas de cheveux. On a pris la peine de bien nettoyer l'endroit. On part avec. Alléluia. Et lorsqu'ils vous aident à tresser, d'autres vous aident à tresser ou à peindre vos cheveux, à peigner vos cheveux, ils vous coupent discrètement quelques mèches de cheveux à votre insu, pour leur usage diabolique. Alléluia. Bien-aimé. Il y a le témoignage d'une dame qui est allée chercher la prière quelque part. Bien-aimé. Et cette sœur témoignait, disait que elle témoignait de la façon dont ses cheveux avaient été coupés spirituellement. Alléluia. Pendant 10 ans, ses cheveux ont refusé de pousser. Amen. On a connu un cas d'une sœur qui portait que le chapeau parce qu'elle n'avait plus de cheveux. Elle portait que le chapeau
C'est-à-dire vos chapeaux de cheveux là, non? Perruques. Elles portaient que les perruques.
Amen. Ce jour-là, j'étais à ce culte, c'était à Abuja. Et l'homme de Dieu est venu, il a dit que tu n'as pas de cheveux. On a pris ta chevelure. Et la dame a pleuré. Il a dit, enlève ton chapeau. Elle a enlevé, elle était nue. Si on rase ta tête, quel que soit chacun de nous, si ça va repousser naturellement, n'est-ce pas? Ça repousse naturellement. Mais pour elle, elle ne repoussait plus depuis des années. Aucune. Elle avait boule rond. Tranquille. Vous rigolez, hein? La sorcellerie, ça ne rigole pas. Elle portait donc, on lui a fait, elle allait faire des examens, on a dit c'est un cancer des cheveux. On va te dire quelque chose, non? C'est un cancer des cheveux. Et donc cette femme mettait que des perruques. Et l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui tes cheveux vont pousser. Elle dit, tes cheveux, parce que pour Samson a repoussé, ta part va repousser. Vous savez qu'on a pris les cheveux de Samson pour le détruire. Alléluia. On a coupé ses tresses, il est devenu faible. Alors on peut affaiblir un homme avec ses cheveux, parce que tes cheveux ont ta substance de vie. Tes cheveux ont la substance de ta vie. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand vous allez chez les marabouts, ils vous demandent de donner votre chevelure. Si vous voulez être prospère. Parce que la chevelure représente la richesse. Oui, on appelle ça gloire. Alléluia. Mais c'est de la richesse. Personne ne peut compter le nombre de ses cheveux. Sauf Dieu. Connais le nombre de tes cheveux. Même toi qui as tes cheveux là. Hein? Comme moi et Abel avec la calvitie, on croit que nos cheveux sont petits là. On ne connaît pas le nombre. Hein? Alléluia. Toi, tu n'as pas de calvitie, ta paix est encore beaucoup. Tu dis, waouh, oui. Même nous, même ceux que ce n'est qu'une petite boule ici, compte à l'œil voir. Alléluia. Compte à l'œil. Alors, le nombre de tes cheveux représente également le nombre de ta prospérité. Alors, c'est pourquoi donc on arrache tes cheveux pour convertir ta prospérité en pauvreté. Hello? Pour convertir ta prospérité en pauvreté. Maintenant, la chevelure représente aussi les fruits des entrailles. Parmi les éléments qu'on utilise pour avoir l'ADN d'un enfant, c'est quoi? Alléluia! Alors, il faut faire attention. La coupe de vos cheveux. Deuxième méthode, c'est vos ongles. Alléluia. Chaque fois que vos ongles sont coupés, veillez à ce qu'ils soient éliminés correctement. Amen. Alors, dans le monde des ténèbres, les ongles ont une grande importance. L'ongle d'un homme permet de l'identifier, permet de le repérer, permet d'arrêter l'œuvre de ses mains. Alléluia. Alors, si on prend tes ongles, il est possible que tu ne puisses pas évoluer. Alors, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup de gens se sont levés,
ils avaient perdu, ils ont vu les ongles qu'on avait coupés. Ils ont dit non, c'est la souris. Alléluia. Amen. On a taillé les pieds, on a taillé les mains pendant qu'ils dormaient. Dis avec moi, tout hôtel satanique, où est posé mes ongles, utilisés contre ma destinée, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom de Jésus. Assois-toi bien. Ce soir, il y a des choses que si elle vous dit, vous n'allez plus faire certaines choses. Vous n'allez plus aller vous coiffer. Est-ce qu'elle doit dire? C'est pourquoi elle dit, vous devez prier pour toute personne qui nettoie vos ongles, qui coupe vos ongles ou qui coupe vos cheveux. Priez. Priez. Aujourd'hui, le job le plus vulgaire aujourd'hui, il y a des bons, il y a des pas bons. Pas bons dans le sens qu'ils ne connaissent pas le travail. Hein? Pas bons dans le sens que ça va direct approvisionner le monde des ténèbres. Puisque tu ne vas pas les utiliser. Il y a une femme un jour, j'écoutais ce témoignage à la télé. Il y a une dame qui a dit qu'elle est allée coiffer une autre. Elle a reçu une dame pour la coiffer. Et elle était avec sa copine. Pendant qu'elle coiffait, elles ont coiffé la tresse de la femme là pendant des semaines. Et elles se sont retrouvées dans l'eau, en train de continuer à coiffer. Et elle est revenue de là, seule, sa copine est restée. Qui avait écouté ça? Pardon? Oui, elle a dit, Jésus, elle s'est retrouvée de l'autre côté. L'autre est calée dans l'eau, tressant toujours. Mm-hmm. Elle avait faim. Amen. Écoutez, mes bien-aimés. Le diable a compris le diable a compris l'importance du beau et de la beauté. Alléluia. Lui aussi a investi à l'intérieur. Il a énormément investi et il a des salons sophistiqués, bien positionnés, bien achalandés, de manière à ce que lorsque tu entres, tu dis que waouh. Mais tout ce que tu déposes là, écoutez, quand tu vas te coiffer, tu regardes tes cheveux après, non, ça ne te sert à rien. Tes ongles là, n'est-ce pas, on prend, on met de côté, tu sais que ça ne sert à rien. Pendant beaucoup de temps, j'ai évité de me nettoyer les ongles. Je me les nettoyais ou mes mamans les nettoyaient. Alléluia. Maman était toujours dit, va dans un salon. J'ai dit, attends. Même pourquoi on coiffe ma tête, j'ai beaucoup de réticence. Je prends tellement de temps pour qu'on coupe mes cheveux. Écoutez, mes bien-aimés, la seule personne, une des personnes qui peut influencer ta vie, c'est celui qui tient ta tête entre ses mains. Et c'est ce que Delilah a fait. Elle a tenu la tête de Samson sous ses pieds. Avançons. Les gens ne vont plus aller se coiffer après. Allez-vous coiffer. Alléluia. Alléluia. Quand Dan grandissait à un certain âge, je lui faisais couper les cheveux à la maison. Et je demandais, laissez ces cheveux-là. Laissez ces cheveux-là. Quand mon bobo... Quand il a grandi, ses cheveux étaient à un niveau. Je t'ai dit de couper toi-même et de me les amener.
Il dit, ses premiers cheveux ne restent pas. Les premiers cheveux de vos enfants, ne blaguez pas avec. Personne ne doit les couper excepté vous. Même Joab là, ses cheveux, je l'ai récupéré ici. On a prié dessus et on a enterré sur la terre de l'église. C'est là, c'est quelque part là qu'on a enterré. Amen. Ça fait que leur vie, ces enfants, c'est même s'ils font comment, leur vie va toujours être attachée à la maison du Seigneur. L'ennemi ne pourra, même si leur mère ne prie pas pour eux, l'onction de Dieu qui est présent sur cette terre va parler pour eux. Alléluia! Alléluia! Ne blaguez pas. Les premiers ongles de vos enfants, quand ça, coupez-les vous-même. Coupez-les. C'est les ongles, c'est les cheveux qui sortent du sein maternel, qui sortent de la présence de Dieu. Il y a une certaine onction et une certaine grâce à l'intérieur. Ne les déposez pas n'importe où. Ce sont des choses qui sont échangées et vendues dans le monde des ténèbres pour des breuvages. Alléluia. Je parle aux futures mamans. Attention. Prenez ces choses avec beaucoup de révérence. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Troisième méthode qu'ils utilisent. Attention. La troisième chose qu'ils utilisent, bien-aimés, c'est les serviettes hygiéniques des femmes. On ne peut pas les jeter n'importe où. Amen. Alléluia. Bien-aimés. Je vous dis quelque chose. La période de menstruation d'une femme, c'est la période pendant laquelle il y a en elle, c'est pendant laquelle son corps se nettoie. Amen. Autant physiquement que spirituellement. Alléluia. Et c'est donc une période pendant laquelle elle est dans un état spirituel hautement élevé. C'est pourquoi beaucoup de satanistes font tout pour avoir des rapports intimes pendant ces moments avec certaines femmes. Ça les permet d'aspirer leur force vitale et leur force spirituelle. Parce qu'elles sont comme dans un état de jeûne, leur corps jeûne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Beaucoup de gens ont vu leur serviette hygiénique disparaître. Disparaître. Tu peux prendre le micro.
Au moment, les menstrues de la femme ont une puissance qui peut anéantir le royaume. C'est pour
attacher. Parle bien, je n'entends pas bien.
Je veux dire que quand une femme
est dans sa période. Sa période de menstruation.
Et que nous sommes en train de faire certains, bon, je vais dire, à l'époque, quand on faisait certains.
Les rites.
Elle ne passait pas. Parce que si elle passe.
Ça va gâter.
Ça va tout gâter. Ça gâte tout.
Parce qu'elle est dans une puce. Elle est dans un état où elle capitalise son énergie vitale. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je le dis encore. Pourquoi? Pendant ce moment, elle se vide du mauvais sang. Amen. C'est-à-dire que son sang se renouvelle. Le mauvais sang sort. Et c'est donc ce sang que les sorciers récupèrent. Ce sont ces sangs que les sorciers récupèrent qui est comme de la monnaie dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est quoi, il faut faire attention. Ok. Wow. Mighty God.
Non, juste un conseil pour celles qui sont, sont encore très jeunes. Mm-hmm. Mais très jeunes, il y a une maman chrétienne lors d'un séminaire chrétien qui nous disait de ne jamais jeter ses garnitures sans laver. Mm-hmm. Il faut faire sortir tout son sang. Que ce soit, oui, parce que nous, on a démarré avec les garnitures lavables. Aujourd'hui, c'est les non-lavables. Donc, c'est les prêts à jeter. Donc, elle nous conseillait de ne jamais jeter sans enlever tout son sang. C'était la seule protection. Donc, j'étais encore tout jeune et puis ça m'a beaucoup aidé.
Alléluia. Amen. Donc, il y a ça. Il y a les serviettes hygiéniques. Il y a même les slips des femmes. Et même des hommes, attention, personne n'est à l'abri. Parce que l'homme qui porte son slip ou bien son bermuda garde ses fluides. Et les fluides ont la même valeur que le sang. Il peut être utilisé contre toi. Ok, quelqu'un veut ajouter, veut dire quelque chose. Lève-toi, avance rapidement, tu prends le micro. Alléluia. Oh mon Dieu.
Alléluia.
Amen.
Moi, je me rappelle quand j'étais encore petite, j'étais partie dans notre maison familiale à Neubel. Comme je saignais, j'ai fini de. Je m'étais échangée. J'ai pris la garniture, je suis partie mettre dans la poubelle. Le temps que je tourne pour entrer dans la maison, un esprit me vient en tête que, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Je rentre directement pour chercher la garniture dans la poubelle, je ne trouve plus. J'ai dit que, ah, là, je me posais la question que, mais j'ai seulement perdu la tête ou quoi? J'ai fouillé toute la poubelle, je n'ai rien trouvé. J'ai commencé à m'inquiéter et à partir d'un temps, je me posais toujours la question, j'avais même expliqué ça à maman, je me posais toujours la question si je pouvais concevoir. Ça m'inquiétait tellement. Quand j'ai conçu, je suis arrivée à 9 mois. Même quand mes tantes me voyaient, elles étaient même surprises que, hey. Malgré ce qui s'est passé, mais j'ai compris que Dieu avait un plan et il fallait qu'il les montre que ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas marché. Bon. Et ça m'a aussi donné un peu une leçon.
Ça t'a donné beaucoup de leçons. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien, bien-aimé. Non seulement les menstrues, elle a relevé quelque chose que je voudrais appuyer dessus. Amen. Ces menstrues-là sont utilisées comme de la monnaie, de l'argent. Amen. Pour des transactions. Deuxièmement, c'est également utilisé pour déclencher précocement la sexualité de l'enfant. Amen. Donc, plutôt... Elle s'intéresse aux hommes. Ou il s'intéresse aux femmes. Très petit. À cause de ça. Alléluia. Et ça les prédispose à une grossesse précoce. Maintenant, elles deviennent comme des supports. Ou bien des femmes pour les maris spirituels. Et des maris pour des femmes spirituelles. De telles personnes vont maintenant avoir des rêves mouillés très tôt. Amen. Ils vont avoir des rêves mouillés très tôt dans leur vie. Est-ce qu'on peut avancer? Laissons le sujet là. On va finir en 40 nuits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Alors, une autre méthode. Une autre méthode, et je pense qu'on va conclure avec ça, c'est les vêtements qui sont volés. Le vol des vêtements, mes bien-aimés. Il y a l'histoire d'un enfant qui a avoué qu'il était un sorcier et qu'on lui avait demandé de voler la chemise de son père. Et c'était la raison pour laquelle son père était demeuré pauvre. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas que l'habit a toujours constitué un élément d'échange et de transfert. Amen. D'échange et de transfert. Lorsque vous regardez la vie de David, toutes les étapes de la vie de David, il s'est vu changer de vêtements. Dans la maison de son père, il avait le vêtement multicolore. Quand il a été vendu, le vêtement multicolore a été déchiré, Joseph, pardon, a été déchiré, noyé dans du sang. et on lui a revêtu d'un vêtement d'esclave. Il est parti chez Potiphar. Chez Potiphar, on lui a changé de vêtement. Il a eu un vêtement qui n'était pas assez solide parce qu'il a dû laisser tomber ça, un vêtement d'accusation dans la maison de sa patronne. Alléluia. Il l'a revêtu puisque ce vêtement est resté là-bas. On lui a redonné un autre vêtement d'esclave. Et la veille qu'il devait se présenter devant le pharaon, on lui a changé encore un vêtement. Amen. Et ce vêtement lui a pu changer parce que quand il arrive devant Pharaon et qu'il réussit son test d'embauche, qu'est-ce que Pharaon lui donne? Pas un nouveau vêtement, mais il lui donne son alliance. Amen. Il donne son alliance dont il était prêt. Alors chaque personne, alors n'oubliez pas que chaque personne naît avec son vêtement. Le vêtement que tu as sur toi, c'est quoi? C'est ton corps. C'est un habit. C'est un habit. C'est un habit que tu portes pendant, qui te permet de vivre sur la terre-ci. Alléluia. Et quand tu partiras, cet habit va rentrer à la poussière. Et tu vas rentrer avec l'habit de départ que tu avais devant Dieu. Alléluia. Alors, il est important de comprendre que beaucoup de gens ont perdu leur vie le jour où ils ont perdu un type de vêtement. Alléluia. Ils ont perdu leur vie le jour où ils ont perdu un type de vêtement dans leur vie. Il faut faire beaucoup attention à ces choses. Et les jeunes gens qui aiment échanger les habits entre les amis, entre les copines, entre les copains, porte ma robe, je porte ta part. Non! Les chaussures, toutes ces choses qu'on échange. Le corps de l'homme. Regardez, je transpire, n'est-ce pas? La transpiration. Là, ce sont des fluides. Ce sont des fluides. Alors, tout vêtement que tu portes laisse des fluides. On n'a qu'à utiliser un de tes vêtements. Et généralement, les sorciers disent, prends un vêtement qu'ils portent beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de tes fluides sur ça et on peut facilement l'exploiter contre ta vie. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils vont même quand ils vont se faire des traitements, on leur dit, viens avec un habit tel. On va travailler sur l'habit, tu vas porter et quand tu vas partir, tu vas être maintenant bien apprécié. Alléluia. Je prie pour toi. Quiconque a volé ton vêtement et qui l'utilise ou l'a utilisé contre ta vie, je revends. C'est décret au nom de Jésus. Je revoque ces décrets au nom de Jésus. Je prie l'autorité de ce vêtement sur ta vie au nom de Jésus. Je sécurise ta vie dans le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'avais moi mon père, alors que je prie maintenant que tous les ennemis domestiques de ma vie soit identifié et mis hors d'état de nuit, 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 et mis hors d'état de nuit. Tout ce que la méchanceté familiale a volé dans ma vie, écoute la parole de Dieu maintenant, rends-les maintenant, rends-les maintenant, rends-les maintenant, restitue-les maintenant, restitue-les maintenant. Rada katale kete. Shekete papa. Rada katale kete. Rema katalo koto. Sheba katale kete. Pri. Au nom de Jésus. J'avais-moi toujours des cycles de destruction orchestrés par l'ennemi de famille. Je te brise sur ma vie, dans ma maison, dans mes affaires, dans la vie de mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes entrailles. Prie. Toujours, toujours, toujours.
Oh, toujours des cycles de destruction. Cycles de destruction dans ma vie. Cycles de destruction dans mes finances. Cycles de destruction dans mes entreprise, je te renverse par l'onction de Dieu, je te renverse par l'onction de Dieu, je te renverse par l'onction de Dieu, je te renverse par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, j'avais moi toute puissance satanique chargée d'imposer dans ma vie la répétition d'événements maléfiques. Qu'est-ce que tu attends? Mais libère ma vie! Mais libère ma vie! Mais libère ma vie! Mais libère ma vie! Prie. Rebakata lokoto. Shadakata lekete. Shakata labakata. Rebakata lokoto. Shekete pakata. Raba baba kata lokoto, shede kete lekete, raba kata lekete, reba kata lekete, shada kata lekete, rema kata lekete, reba kata lekete. Au nom de Jésus, j'avoue-moi toute captivité familiale, initiée par l'esprit de famille. Qu'est-ce que tu attends? Je brise tes chaînes, je brise tes verrous, je libère ma gloire, je libère ma destinée, je libère mon futur. Prie. Balakata, retekete, shekete papa. Baba. Au nom de Jésus, j'avais-moi toute langue satanique initiée dans ma famille contre ma vie, contre ma destinée, contre la paix de ma maison, contre la paix de mes enfants. Qu'est-ce que tu attends? Tais-toi.